Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un Noël pas comme les autres en perspective. 7 parents sur 10 disent qu'ils font attention à la moindre dépense cette année en vue des fêtes de fin d'année selon un baromètre qu'on vous dévoile ce matin sur RMC. Deux adolescents de 16 ans incarcérés, mis en examen pour un projet d'attaque antisémite repéré pour des propos terroristes sur une messagerie. On va revenir là-dessus. Et c'est peut-être aujourd'hui que sera scellé le sort de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'une délégation américaine est en Russie aujourd'hui pour parler du plan de paix avec Vladimir Poutine.
Vous êtes peut-être parent, vous gagnez peut-être bien votre vie, mais pourtant, vous êtes nombreux à vous serrer la ceinture à l'approche de Noël.
7 parents sur 10, précisément, qui disent qu'ils rognent sur leurs dépenses en ce moment pour pouvoir faire des achats et gâter quand même leurs enfants. C'est le résultat du baromètre IFOP pour l'association Don Solidaire qu'on vous dévoile donc ce matin sur RMC. La preuve ici, écoutez en région parisienne avec Cassandre Brault.
Des chaussettes, des lettres pour le plus petit.
Angelica a déjà commencé ses cadeaux de Noël.
Vous voyez, mais ça, c'est des choses que j'aurais pas achetées précédemment. Bah parce que j'aurais pris quand même un plus haut de gamme. Parce que mon budget, il restera aujourd'hui.
Cette mère de 3 enfants a commencé à mettre de côté dès le mois d'août et ça n'a pas suffi. Alors elle doit faire des arbitrages.
On a rogné plutôt sur le budget vêtements. On va rester sur les vêtements qu'on avait l'année dernière ou il y a encore 2 ou 3 ans.
Léa aussi traque la moindre économie pour avoir un peu de marge.
Bah, je mets de l'essence que si j'ai besoin de me déplacer, par exemple. Les courses, pareil, c'est que quand j'ai besoin, enfin, je vais pas avoir et descendre dans mes placards. Cette année, c'est compliqué et on fait d'autant plus attention parce qu'on a envie de faire des cadeaux à nos enfants.
Mais difficile pour ses parents de ne pas céder à la culpabilité. Ils sont même plus de 55% selon le baromètre Don Solidaire à avoir honte de ne pas pouvoir gâter leurs enfants autant qu'ils le voudraient.
C'est un peu le moment où on a envie de faire plaisir, on a envie de donner tout ce qu'on peut donner, quoi. Et du coup, le fait de devoir faire attention, de tout compter, de réfléchir et de se restreindre aussi, parce qu'il y a des choses où on se dit bah non, cette année, c'est pas possible. C'est très très frustrant et c'est contraignant.
Et pour cette mère de famille, cette année, les cadeaux de Noël, ce sera seulement pour les enfants.
Ce sont deux adolescents de 16 ans qui ont été mis en examen par un juge antiterroriste redoutant un projet d'attaque antisémite contre des personnes de confession juive interpellées à Strasbourg et en région parisienne. Leur profil est en fait une des menaces redoutées par le renseignement, à savoir des jeunes répondant aux idéologies du groupe État islamique et qui échangent, comme c'est le cas pour l'un d'eux dans cette affaire, qui échangent du contenu terroriste dans une boucle WhatsApp. Voilà ce que nous dit l'ancien coordinateur du renseignement à l'Élysée, Jérôme Pinault.
On le voit aussi, il y a une nouvelle manière de préparer des projets. C'est-à-dire des jeunes qui ne se connaissent pas, qui peuvent être à différents endroits de France et qui, sur les réseaux sociaux, entrent en contact et imaginent commettre des attentats. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'ils se font repérer. Ces réseaux sociaux ne sont pas à l'abri de la surveillance des services de police et des services de renseignement.
Voilà, Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement, donc ce matin sur RMC. C'est à 9h que doit être jugé à Montauban le septuagénaire qui a écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella le week-end dernier. Durant une séance de dédicace de Jordan Bardella en pleine tournée en ce moment, portée par un sondage Odoxa qui le donnait récemment vainqueur de la présidentielle. Sondage qu'il n'a même pas testé, comme on dit, Marine Le Pen, dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire des assistants parlementaires européens. Invité d'RMC ce matin, 8h15, Marine Le Pen, Hélène Terzian du service politique et RMC, vous nous dites qu'elle cherche à reprendre la main.
Oui, on l'a vu arpenter plusieurs marchés de Noël ce week-end dans le Pas-de-Calais. Voilà Marine Le Pen ce matin dans notre studio, manière de montrer qu'elle ne lâche pas. Certains en interne ayant émis le sentiment ces derniers temps qu'elle renonçait. Une reprise en main quand Jordan Bardella prend la lumière en pleine tournée de dédicaces et qu'il écrase dans un sondage tous ses rivaux au second tour alors que Marine Le Pen n'est pas testée. Dans ce même sondage, il est même préféré chez les sympathisants pour 2027. On a joué avec le feu, regrette une figure mariniste. Pourtant, c'est Marine Le Pen qui a mis en place ce passage de relais avec Jordan Bardella pour dire à ses électeurs, explique un cadre RN, n'allez pas voir ailleurs si elle est empêchée. Et si elle peut se présenter mais qu'il reste plus haut dans les sondages, le même est très clair, il n'y aura pas de primaire, elle sera candidate.
Tous les regards sont braqués vers Moscou ce matin où l'émissaire de Donald Trump se rend pour discuter directement avec Vladimir Poutine du plan de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le fameux plan qui a été travaillé depuis la première version. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Les Européens et Emmanuel Macron en tête, il a d'ailleurs téléphoné à Donald Trump hier soir, se demande avec quelle conviction les Américains vont défendre ce plan aujourd'hui.
Écoutez, Steve Witkoff va essayer de vendre à Vladimir Poutine la version remaniée du plan de paix de Donald Trump. La Maison-Blanche se dit très optimiste, même si ce texte sur lequel Américains et Ukrainiens se sont mis d'accord laisse de côté les questions les plus sensibles, à commencer par les concessions territoriales que Moscou exige. Les Américains, en tout cas, sont convaincus que l'Ukraine n'est pas en position de force dans les discussions. Trump estime notamment que les Ukrainiens sont en difficulté militairement et que du coup, Zelensky va devoir accepter des concessions. La visite de Witkoff intervient justement alors que les Russes revendiquent la prise de Pokrovsk, une ville stratégique à l'est de l'Ukraine. Le Kremlin, qui diffuse d'ailleurs des images de Poutine en tenue militaire, en train de visiter un poste de commandement, une séquence clairement destinée à montrer aux Américains que sur le champ de bataille, la dynamique est du côté de Moscou.
Il est 8h05 sur RMC, la directrice du Louvre n'était pas au courant des soucis de sécurité dans la fameuse galerie Apollon, où vous savez que les malfrats ont dérobé les joyaux de la couronne en entrant par la fenêtre. Malgré le rapport de la Cour des comptes, un audit aussi datant de 2018, Inès Zegloul, elle dit même dans le journal Le Parisien que ce n'était pas un sujet pour elle.
Elle le martèle. Pour moi, la galerie d'Apollon, c'était un dossier clos. À ma prise de fonction, relate Laurence Descartes dans les colonnes du Parisien, on m'a dit que s'il y avait bien une chose sur laquelle on pouvait être rassuré, c'était les joyaux de la couronne. Leur vitrine avait même été rénovée. La présidente les qualifie de solides.
Visiblement, les vitrines n'étaient pas suffisamment.
Élise Muller, surveillante du musée, rit jaune. La représentante syndicale dit avoir pris connaissance de ses propos.
Avec douleur, oui. Les fragilités, elles étaient connues. Enfin, pour peu qu'on s'y intéresse. Mais visiblement, faire des soirées et des inaugurations, c'est plus utile que d'empêcher des vols.
Et le plan de sécurité, prévu depuis plusieurs années, pourquoi n'était-il pas déjà mis en place, interroge-t-elle. À cette question, Laurence Descartes botte en touche. Nous étions sur le point avant le vol de le déployer concrètement, assure-t-elle.
On parle régulièrement des débordements dans le monde du football. Eh bien, un cap a certainement été franchi à Nice. C'était dimanche soir. Après la défaite des Niçois à Lorient, Nice en pleine crise. En ce moment, 6 défaites consécutives, eh bien, environ 400 supporters sont allés exprimer leur mécontentement auprès des joueurs devant le centre d'entraînement. Une fois la nuit tombée, le ton est monté. Le directeur sportif Florian Maurice et deux joueurs, Terem Moffi, Jérémy Boga, ont particulièrement été visés. Ce supporter présent dimanche racontait hier soir ce qui s'est passé. C'était dans l'afterfoot. Écoutez sur RMC.
Arrivé sur place, il y a le bus qui arrive au bout de 15-20 minutes, vers 23h15. Il y en a qui sont cagoulés, il y en a qui sont pas cagoulés. Les fumigènes sont sortis, il y a des chants très hostiles, le bus se rapproche, le bus est stoppé. T'as des policiers d'un côté et de l'autre, les agents de sécurité de l'OGC Nice. Et puis là, il y a Florent Maurice qui sort en premier, qui se prend une marée de hurlements. Il est chahuté. J'ai vu des joueurs pris à partie. Évidemment, c'est Moffi, Boga et Maurice qui ont pris très très cher.
Des coups ont été portés à ces deux joueurs, en l'occurrence en arrêt pour 5 et 7 jours, et qui portent plainte. Il n'y aura pas l'entraînement avant demain à Nice. Et puis une des infos du matin, c'est qu'il y aura bientôt un nouveau parc Astérix. Vous connaissez la musique ? La Compagnie des Alpes, qui est à la tête du parc, annonce un parc prochainement en Allemagne, le deuxième hors de France, sans doute en 2030, le premier hors de France, sans doute pour 2030, avec une première zone qui sera dédiée spécialement à Idéfix, le chien d'Obélix. 900 visiteurs quand même par an sont espérés.
C'était donc le journal de Quentin Vinet.